Salut, c'est Romaric, bonsoir et bienvenue dans Graffiti Cinéma. Cette semaine, on continue notre mois de février consacré aux jouets au cinéma. La semaine dernière, on parlait de la mise en scène de ces objets cinématographiques. Cette semaine, on continue notre deuxième émission. Vous me retrouvez en compagnie de Juliette, de Nicolas et de Thomas. On parle des plus belles mises en scène des jouets au cinéma et de nos films, notre film du mois, Le Jouet de Francis Weber. C'est parti, après notre film préféré comme toutes les semaines. A tout de suite.
Bonjour, donc je m'appelle Fenitsu André Masinoru, et ben je suis là pour vous parler en quelques secondes de mon film préféré. En fait, c'est un film du début des années 2000, mais qui raconte une histoire très très classique du 16e siècle, qui s'appelle Cendrillon. Mais en fait, ça s'intitule en anglais Ever After, avec Drew Barrymore et Doug Gray Scott, avec la méchante Angelina et puis ses deux sœurs. Et donc j'ai bien aimé parce que c'est une histoire assez classique du bien contre le mal. Et donc au début, les pauvres, on les réprime, etc. Et puis finalement, il y a le prince qui en fait ne regarde pas le niveau de richesse, mais le niveau de cœur qu'il y a derrière. Et donc il a décidé au final d'épouser cette princesse que les gens appellent au départ un souillon. Et puis donc du coup, en termes de storytelling, ça marque et je l'ai regardé au moins 5 fois. Quoi. Voilà, merci.
Vendu.
Hé, hey, c'est quoi le texte?
Comment on dit déjà?
J'ai oublié.
Où est-ce que vous voulez en venir?
Laisse tomber.
Graffiti cinéma.
Tcha! Graffiti cinéma.
Arrière-tout, pleine puissance.
India 3-7.
India 3-7. Chargé.
Coordonnées numéro 2, Roméo 2-6.
Roméo 2-6.
Cible verrouillée. Monsieur, j'attends vos ordres. Missile paraît être lancé. Faisons-les exploser, capitaine Nagata.
Capitaine Nagata.
Ici le USS John Paul Jones.
Déclinez votre identité et votre position.
Hopper?
Sam?
Sam, est-ce que tu vas bien? Où es-tu?
Oh Dieu, merci. Je vais bien.
Nicole,
ils sont ici à Saddle Ridge, là où il y a le réseau d'antennes satellites. Est-ce que
tu reçois? Ils vont émettre un signal et établir une communication.
Tu vas devoir détruire l'installation.
Touche écoulée, on n'était pas prêts et pourtant ils l'ont fait. Peter Berg en 2012, vous avez même cet acteur japonais qu'on adore dans énormément de films art et essai, Asanobu, qui nous dit cette réplique et voilà, on les a eu touche écoulée. Comment adapter touche écoulée un jouet, clairement, au cinéma? Eh ben c'est simple, vous imaginez des aliens qui envahissent Hawaï, qui mettent un bouclier. Pourquoi? Parce qu'Hawaï c'est cool.
C'est bien pour faire du surf quoi.
C'est bien aussi pour faire du surf. Et directement, on fait une couverture où il n'y a plus de 4G, il n'y a plus rien. Et donc on va attaquer que Hawaï, avec des aliens qui cassent absolument tout. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'en face vous avez des croiseurs, des vieux destroyers de la guerre, évidemment. Alors pourquoi on y va? Parce que il y a les vieux bateaux qu'on va réutiliser et qui vont être réemployés après dans la suite du film pour en faire des vrais jouets de cinéma. Je dirais que la seule inventivité de ce film, complètement dingue, c'est de matérialiser la grille en fait, de oui, toucher couler avec les bouées antisismiques qui détectent les mouvements marins. Et là, il y a la seule bonne scène du film. Je vais pas aller loin en disant la meilleure parce que je trouve que c'est vraiment une bonne scène pour le coup, où vous avez un bateau qui est en aveugle et qui doit, avec les mouvements sur ces bouées détectant les mouvements de la, des vagues, hein, donc anti-raz-de-marée, trouver où sont les aliens. Alors pourquoi ils doivent faire ça? Parce que quand ils regardent les aliens, bah, ils les tapent. Et puis ils les tapent fort, hein, parce qu'ils cognent à peu près toute la marine américaine dans la scène d'ouverture. Donc c'est un petit peu. Voilà. Ah bah on avait dit qu'il n'y avait pas d'engagement. Bah si. Et cette scène est géniale parce que vous avez un bateau tout seul qui doit repérer les mouvements marins avec cette logique de bouée qui vient donc, du coup, reproduire la grille de toucher couler. Moi, j'ai trouvé que cette scène à part entière devait être le film. Et c'était là vraiment où on avait une vraie fusion entre le jouet et ce que le film voulait en faire. Et c'est assez rigolo parce que là, on va parler d'autres franchises comme Lego et Playmobil qui vont faire des écarts absolument absolus avec leurs objets. Mais en partant de toucher couler, est-ce que vous vivez ça avec ces franchises qu'on va citer dans, ici et maintenant, Lego, Playmobil, est-ce que vous sentez un écart important par rapport à l'objet, je dirais, tout simplement, et à, alors, philosophie, c'est un grand mot, mais en tout cas, son esprit.
J'ai adoré le film. Je dis bien un film parce qu'en fait, c'est la grande aventure Lego, en fait. Parce qu'on retrouve à la fois la fantasy, la création, dessin animé, etc. Et à la fois, la dernière partie du film, en fait, le second degré, le recul sur je suis adulte, touche pas à mes jouets. Je parlais tout à l'heure de la spéculation sur les jouets vintage des années 80, on est clairement là-dedans en fait. C'est-à-dire que les gens de ma génération qui ont eu entre les mains des jouets qui maintenant s'arrachent à prix d'or, bah, se reconnaissent dans ce film. Et à côté de ça, bah, on continue toujours d'acheter des Lego pour ses enfants, un camion de pompiers, une voiture de police, peu importe. Et donc je trouve que c'était très très légèrement retranscrit dans le film, les deux aspects d'un jouet, l'aspect mercantile, l'aspect aussi fantasy, s'amuser, et qu'un jouet ça parle autant à un enfant qu'à un adulte en fait.
Toujours numéro 1, tout est super génial.
Oh, trop bien, j'adore cette chanson.
Tout est super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. C'est un rêve magique.
N'oubliez pas votre clignotant. Carrez-vous dans les cases. Yes. Déposez les vêtements au pressing avant midi, lisez les gros titres, n'oubliez pas de sourire. Soutenez toujours l'équipe sportive locale.
Allez l'équipe sportive locale.
Rendez toujours un compliment. Hey, chouette look.
Vous aussi.
Buvez du café hors de prix.
Et voici, ça fait 37$.
Phil Lord et Chris Miller hein, pour La Grande Aventure Lego, le film Lego au Québec, et c'est en 2014. Donc il y a une suite, hein, La Grande Aventure Lego 2 en 2019, et bon, un scénario qui se déroule dans le même univers en général, mais c'est des personnes qui vivent à Bricksburg. Voilà, bon, le bourg de la brique. Voilà, pour le dire de manière très québécoise, il y a quelqu'un qui
tout est vraiment génial.
Voilà, tout est vraiment génial. Et c'est vrai qu'on ce que je dirais, c'est que Bricksburg, déjà on voit avec le nom de cette ville, bon, même si en français ça sonne pas hyper prestigieux, qu'on reste quand même dans le matériau d'origine et la philosophie de Lego, c'est-à-dire évidemment un jeu de construction. Et à l'image de Toucher Couler, qui était un jeu vraiment de stratégie, on devait repérer l'adversaire à l'aveugle. Donc c'est vraiment pour ça que je citais la scène de Toucher Couler tout à l'heure, parce que dans un film vraiment à Abracadabrantes, qu'on avait une scène clairement qui visait juste, et c'est pour ça que cette scène-là, moi, je la trouve vraiment, vraiment réussie. Et Lego, on avait donc cette logique vraiment de construire. D'ailleurs, ce que les jeux vidéo également ont adapté hein, dans l'univers Lego, c'est que vous construisez, vous détruisez, mais il y a toujours cette logique de profiter des briques et de votre univers alentour pour déformer et le façonner à votre image en fait directement. Et ça, je trouve que voilà, on voit qu'on est dans la philosophie du jouet qui est respectée.
La finalité, c'était comme de se taper dessus, de se foutre sur la tronche, et c'est oui. Bien transposé.
Oui, quand on fait des scénarios et qu'on fait des pré-productions, on se doute bien que ça va pas aller bien loin quand même, que G.I. Joe, le potentiel, avec le traitement qui avait été proposé, bah, va pas faire autre chose qu'un film des années 90 testostéroné. Et là, pour le coup, on voit qu'en fait, finalement, ces franchises Lego Playmobil qui se sont lancées après les échecs G.I. Joe sont un peu une réponse, finalement, à ces échecs, entre guillemets, de G.I. Joe et de Transformers. Alors, échec critique, hein, évidemment, puisque Transformers est un film qui a fait la fortune de Michael Bay.
Lego et Playmobil, c'est que ça respecte vraiment le concept du jeu en lui-même, c'est-à-dire que Lego, c'est tu peux faire tout ce que tu veux, c'est tu peux construire ce que tu as envie, mélanger des univers et tout ça, mais tu peux aussi faire ton vaisseau que tu vas exposer et tout ça, enfin C'est vraiment le dessin animé, en plus de nous raconter une histoire, nous montre, enfin le film, pardon, nous montre toute la palette des possibilités que tu peux faire avec les Lego. Et le film Playmobil, alors c'est moins macabre, mais ça nous montre que, pareil, t'as plein d'univers, mais t'es libre de les mélanger si t'as envie.
Voilà c'est... Alors Playmobil, le film, il sort en 2019, un film français réalisé par Lino Di Salvo, et qui mélange animation 3D et prise de vue réelle. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose de très différent de ce qu'a fait la franchise Lego, et on voit en tout cas que... On a vraiment l'ampleur en fait de ces films, hein, puisque là vous avez Anya Taylor-Joy qui est devenue la coqueluche du cinéma RSC américain et français. Vous avez même Daniel Radcliffe qui fait une apparition. En termes de production, c'est assez imposant. Quoi. On n'est plus dans les petits films entre guillemets qu'on citait récemment avec Small Soldiers. On est dans de la très très grosse machine, mais une machine qui prend de moins en moins de risques et surtout qui, au-delà du succès mercantile évidemment qu'elle cherchait, essaye quand même de pas se faire taillader d'un point de vue critique.
Bah, la grande aventure Lego, quand on le vend comme ça, rien que le titre, c'est... Il faut être confiant hein, dans son film pour faire déplacer les foules. Et quand effectivement je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est pas... Ils ont réellement pensé ce qui... Le film n'est pas arrivé comme ça, en disant, tiens, on va faire un truc sur des Lego, mets-moi des Lego, on prépare les boîtes, la grande aventure, c'est bon, on va les vendre. Y a le film, il est tourné en 3D avec un faux stop-motion. C'est-à-dire qu'on nous laisse penser que les figurines ont été animées image par image, alors que ce n'est pas vrai. Et c'est cette idée-là qu'on puisse se dire, pour les enfants, puissent voir leur c'est-à-dire qu'eux-mêmes pourraient l'animer, et pour les adultes, retrouver des sensations qu'ils ont vues dans des films précédents, comme je parlais tout à l'heure, dans les années 50, 60. Et derrière la surprise... pas le twist du film, mais la surprise de voir des personnages vivants, réels, et d'avoir le recul sur l'aventure qu'on vient de voir. Je trouve ça très intelligent, très malin, et c'est pas le film auquel je m'attendais au premier abord. Et ça, on le ressent pas souvent au cinéma, ça. De se dire que on nous montre une bande-annonce, ça y est, bah, on a quasiment tout vu. Donc, si t'es déjà fan de l'univers et des choses, tu vas le voir, tu vas apprécier. Si t'es pas très fan, t'y vas pas. Là, tu te dis, bah, j'y vais, je sais pas trop à quoi m'attendre. Et je suis surpris agréablement.
Je pense que c'est aussi un cas particulier, le Lego, parce que c'est un jouet qui parle un peu à tout le monde. D'abord, il s'est vendu dans le monde entier, il continue de se vendre très bien. Mais il a brassé tellement d'univers, que ce soit du Duplo, que ce soit Lego Star Wars, etc., que bah, ça parle un peu à tout le monde. Et, alors, je vais pas dire que c'est
Duplo, il se décarcasse quand même.
Ils étaient en confiance, quoi. Ils se disaient, voilà, c'est vraiment universel. Alors que Transformers, encore une fois, ça s'adressait vraiment à des garçons plus que des filles. Deux, des garçons qui kiffaient les grosses voitures, les gros camions. Donc voilà, c'est déjà plus réduit comme public, ce qui a pas obligé de cartonner. Mais c'était pas aussi universel dans l'approche que pouvait l'être Lego.
Il reste un cas particulier dans le domaine du jouet qu'on voudrait traiter dans cette partie de grande franchise, c'est le cas des poupées flippantes. Et là, pour le coup, j'ai directement un extrait à vous proposer.
Non mais elle est dingue, cette pétasse !
Thomas, il est mort de rire.
Non, mais moi, Chucky, quand j'ai vu, je m'attendais à un doublage par un célèbre acteur français. Je pensais que c'était Chucky Cario qui doublerait. Là.
Chucky Cario, c'est pour ça que tu rigoles, et ça va s'entendre en radio, et que moi, je suis obligé d'interrompre mon pitch de dingue. Alors, c'est vrai que Chucky, il nous pose cette question-là. C'est que moi, la question un peu orientée que j'avais prévue, c'était de vous dire le fait qu'il y ait des réals qui aillent chercher des poupées maléfiques. Alors, on en a un paquet, hein, des poupées maléfiques. Est-ce que ça montre pas la lassitude et le manque de renouvellement dans la mise en scène des jeux au cinéma, et que c'est à un moment donné, ces cinéastes-là, ils ne se sont pas dit on n'arrive plus rien dans le domaine très précis d'animer des objets qui ne doivent pas l'être. On cherche toujours des nouveaux territoires, des nouveaux lieux d'animation, mais on constate que ça peut avoir tendance à tourner en rond. Hein. On peut en donner quelques exemples qu'on avait prévus dans le conducteur, et c'est vrai que Juliette, tu nous avais fait une chasse à la filmographie qui était assez impressionnante. On a Sabrina, The Boy, Annabelle, Cheats Play, Megan, Là, pour le coup, il y a énormément de...
aussi, il y en a...
Chucky, on va en parler, c'est un film, lui, qui est devenu culte, hein, pour le coup. Un film en 89, vous avez même Tom Holland donc, qui réalise, hein, pas le Spider-Man, hein, l'autre. En 89, et donc 44 millions au box-office et 9 millions seulement de budget, hein, pour Chucky. Donc on retombe vraiment là dans des sphères du cinéma indépendant américain en termes de budget. C'est vrai qu'en 2023, quand on dit 40 millions de chiffre d'affaires, de box-office et 10 millions de budget, c'est quasiment un court-métrage par rapport à l'ampleur des coûts maintenant.
Un souvenir très personnel sur Chucky, c'est quand je ne sais plus quelle année c'est la sortie, mais on avait loué la cassette vidéo de Beetlejuice et il y avait des bandes annonces, mais en plein milieu du film. Donc on était un peu obligé de regarder parce qu'à l'époque, la cassette vidéo, c'était un peu compliqué. Et c'était Chucky. Et moi, j'ai flippé. Rien que de la bande-annonce, j'étais petite, j'ai flippé. J'ai regardé sous mon lit pendant des semaines et tout. Donc, j'ai mis très longtemps à voir le premier Chucky. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai regardé avec ma fille de 9 ans le nouveau Chucky là, de 2017. Et on a ri. On n'a pas... clairement, on n'a pas flippé. Donc, voilà, il y a une évolution. Mais je pense que les poupées réalistiques, c'est justement l'aspect, normalement, une poupée, c'est enfantin, c'est gentil, c'est rassurant, et donc, c'est propice au film d'horreur, quoi.
Alors, bon, évidemment, quand on entend le synopsis de Chucky, on voit que c'est quelque chose d'assez répétitif qui a été souvent très utilisé dans le cinéma. Donc, Charles Lee Ray est un tueur en série psychopathe qui tente d'échapper aux forces de l'ordre. Il est tué dans un magasin de jouets, ce qui est assez improbable. Et avant de mourir, il utilise la magie vaudou pour placer son esprit dans une poupée. Karen Barclay, une dame, offre à son jeune fils Andy cette poupée. D'ailleurs, souvent, les enfants s'appellent Andy dans ces films-là, je sais pas pourquoi. Et cette poupée imite le physique d'un petit garçon roux en salopette. Il s'agit d'une poupée brave gars qui fait fureur auprès des jeunes à cette époque et qu'Andy souhaitait posséder.
Donc de prendre quelque chose du quotidien qui pourrait pour 95% des gens être plutôt rassurant et affectueux, et pour une petite partie qui ont déjà une gêne ou une peur, le rendre encore plus... agressif et menaçant. Tu disais que oui, ça engendrait après un genre, de la même façon que les slasher movies après Halloween ont engendré un genre. Il faut forcément qu'il y ait un précurseur de la poupée maléfique et jusqu'à. Personnellement, je suis pas fan. Je sais même pas si j'ai vu Chucky. J'ai dû voir peut-être il y a longtemps, mais c'est pas forcément ma tasse de thé. Mais je trouve ça amusant l'idée de prendre quelque chose d'inoffensif et de le rendre dangereux, en fait. De la même façon qu'on pourrait imaginer qu'un animal tout gentil, un cochon d'Inde, j'en sais rien, un poisson rouge, on pourrait imaginer de transposer tout ça en film d'horreur. Et,
un pangolin.
Un pangolin.
Pardon.
Un pangolin.
Par exemple.
Le pangolin de l'horreur. Alors, pour la petite histoire, entendait 9 millions de dollars de budget, il fallait quand même plus de 9 marionnettistes pour juste animer la poupée. Hein.
Quand on... Bien sûr, c'est l'idée qu'un objet usuel ou un objet terriblement mignon peut... auquel nous, on accorde vraiment pas un aspect de peur. Moi, j'irais presque plus loin, c'est que c'est presque là où on a peur de nos propres enfants.
Oui,
parce que finalement, moi Chucky, je l'ai vu qu'une fois, mais le rappel, c'est de dire les parents, ils ne le croient pas, le gamin, en disant que la poupée s'anime, elle veut me tuer, elle va tuer d'autres gens, elle va nous tuer nous, ils le croient pas. Et du coup, on commence à se méfier de son gamin en se disant, mais attends, est-ce qu'il n'a pas un problème psy, est-ce qu'il faudrait pas l'emmener, ça finit avec le village des dadés. Si vous avez vu surtout le remake de Carpenter, parce que c'est celui qu'on a plus vu, quoi.
Le village des damnés, on peut rapidement le décrire, hein, le pitch en quelques phrases. C'est un très très bon film de Carpenter, c'est pas forcément le plus exposé parce qu'il est dans la dernière partie de ses gros succès.
Et c'est en théorie une entité extraterrestre qui a inséminé les femmes d'un village.
Oui.
Et elle se retrouve enceinte tout en même temps.
C'est ça.
Et personne ne comprend, donc paranoïa entre les papas, les hommes, les machins, en disant mais c'est qui, t'as couché avec qui, tout ça. Et elle se retrouve à mettre, à donner naissance à des enfants qui sont tous éventuellement connectés entre eux, qui seraient tous une sorte d'entité à une volonté propre entre eux, quoi. Ils sont, je sais pas, une trentaine d'enfants dans le scénario original, ils sont une dizaine ou une quinzaine. On devient à ce il y a une sorte de paranoïa à regarder ses enfants en se disant mais ils sont bizarres, c'est pas vraiment des enfants, mais en même temps les mamans se disent attendez, je l'ai mis au monde, c'est mon gamin, je peux pas, c'est pas possible qu'il soit si diabolique que ça. Et ben voilà, moi toutes ces histoires de poupées, ça me faisait penser à ça en fait, que ces poupées là c'est l'incarnation de son enfant et de la difficulté des fois de pouvoir dealer avec ces relations là quoi, entre lui et l'adulte. Donc évidemment, dans la plupart de ces films, comme c'est identifié dans les films modernes, les enfants n'ont pas trop de... parce que c'est compliqué de faire venir du public pour leur dire « Regardez vos enfants de façon bizarre ». C'est assez malsain comme façon de produire un film. C'est-à-dire qu'à mon avis, ça ne se produirait plus, ce genre de film. Ça paraît compliqué, mais ça rentre dans cette idée-là pour moi.
Ce que tu dis, ça me fait penser moi, à un autre film qui n'est pas du tout un film d'horreur ou tout ça, mais « Se méfier de ses enfants ». Je ne sais pas si vous avez vu « We need to talk about Kevin ».
Oui.
Avec Tilda Swinton.
Oui.
Et justement, si tu veux voir un film où ton enfant il te fait flipper, je te le conseille. Parce que là, pour le coup, c'est bien flippant aussi.
Comment ne pas parler de jouets au cinéma et de poupées flippantes sans parler de l'anecdote terrible de Poltergeist en 82. Donc on sait que c'est un film qui a la réputation d'être maudit. Bon, alors c'est un film de Toby Hooper. Donc il a la légende, mais qui est assez avérée, que Steven Spielberg a vraiment réalisé le film. Parce qu'il était contractuellement engagé, il avait déjà sorti E.T. en 82. Donc il ne pouvait pas faire deux films dans la même année. Donc il aurait vraiment pourri la vie de Toby Hooper sur le tournage parce qu'il produisait pour quasiment réaliser à sa place. Bon, ça c'est vieux comme le monde, mais une des malédictions de ce film et concerne un jouet. Figurez-vous qu'il y a un enfant qui a failli mourir sur le tournage, Oliver Robbins, qui incarne le grand frère donc, de Carol Ann. Il est attaqué par un clown dans le film, et pendant qu'il tourne la scène du film, le gamin, donc c'est un vieux jouet hein, à base de fil de fer et d'élastique. Aujourd'hui, on aurait ça, on irait en prison, juste le fait de l'avoir dans notre salon. Et le gamin, en fait, en jouant la comédie, en se battant avec le clown, il s'étrangle pour de vrai. Mais tous les adultes autour pensent que le gamin joue la comédie. Ils font « Waouh, il est vachement bon, quoi !» Il y a un mec, au bout d'un moment, alors qu'il n'y a pas eu coupé, dit « Mais il est vraiment en train de mourir, là !» Et il saute directement sur le gamin. On a frôlé la catastrophe sur le tournage, quoi. Donc, c'est pour ça que je vous en parlais, parce qu'évidemment, on parlait de poupée flippante, et c'est un jouet qui a été détourné de son rôle de base. Poltergeist est rentré dans les légendes également à ce niveau-là. Les poupées numérisées, donc je disais Annabelle et les dernières, est-ce qu'on reste dans le domaine du jouet pour vous, ou est-ce que là pour le coup on va volontairement trop loin dans mon imagination et dans cette filiation avec Chucky et les jouets animés?
Je vais servir un peu la patate chaude. En fait l'idée ces films là j'ai l'impression que je suis trop vieux pour ce film.
Moi aussi,
en fait.
C'est pareil.
J'ai l'impression que je suis trop vieux. J'ai passé un cap, c'est comme par exemple comme on voit le film qui est sorti très récemment avec le clown le clown tueur là.
Ah,
j'ai plus le nom en tête là, ça fait
le
un
clown tueur. De... Ah ça.
Oui, ça fait... Non. Là
c'est ça. Mais si c'est ça.
Pas... Très bien, excellent. J'ai plus le titre en tête. Là, les gens vont nous.
Il y a un film qui était rigolo, mais à mon avis, je pense pas à celui-là, qui s'appelait Clown, où un mec met un costume de clown et qu'il n'arrive pas à enlever et il devient un clown tueur.
Sinister, c'est ça, Sinister. Et qui fait.
Gros succès en Bretagne, ce film-là.
Oui. Sinister. Brest, tout ça, film Sinister. Très bien. J'ai complètement abandonné. Le film d'horreur, je pense, ouais, de ce style-là, c'est-à-dire Saw, tous ces genres de trucs. J'ai totalement abandonné ça. Ça m'a bien fait rigoler quand j'avais 20 ans, 20-25 max. Et après, ça me faisait presque ni chaud ni froid. Et en même temps, je me disais, mais il y a plus une forme de dégoût en fait là-dedans. Et du coup, c'est pareil. Annabelle, je me disais, bon, ouais, bon, bah, d'accord, super, une poupée maléfique. J'ai déjà vu ça 10 000 fois. Quoi. autant que ce soit des jeunes qui n'aient pas encore le recul et l'expérience qu'on a de vision de film, et peut-être qu'ils se diront la même chose après, en disant, il y avait d'autres films avant, ils étaient tellement mieux, ou finalement Annabelle est moins bonne. Et c'est pour ça que je trouve que, pour moi, la cible, c'est plus vraiment nous.
Par contre, je voudrais faire un petit rapport aussi, comme on a parlé de Toy Story avant. Dans le Toy Story 4, il y a une poupée maléfique un petit peu. C'est d'ailleurs les premières poupées maléfiques qui étaient dans les films des années 60, même un peu. C'était les marionnettes un peu de ventriloque. Elles ont un nom spécifique, mais je me souviens plus. Et elles sont dans Toy Story 4 et elles font flipper comme dans les films de poupées maléfiques.
Pour les plus anciens d'entre nous, Tataillé me faisait un peu flipper quand il était chez Patrick Sébastien. Oui. Et cette espèce de Chewbacca absolument dégueu qu'on avait ramassé sous le lit. Ça, j'étais pas bien, moi.
À la différence de Jean-Marc qui te rend un peu atterré, quoi.
Jean-Marc, c'est un jeu de mots avec Tataillé ?
Bah, Jean-Marc, c'est Jeff. Jeff Panaclock.
Oh, pff, oui. J'y étais pas. Moi, ça fait très longtemps que les ventrilogues, je ne les regarde plus.
Voilà. C'est bien pour ça que j'ai dit ça, justement.
Ils me font flipper. Voilà. Donc, les poupées maléfiques, une frontière du cinéma, et peut-être que les ventrilogues, peut-être à l'avenir, le seront également. En tout cas, sur ce thème-là, voilà, on voulait échanger parce que c'est vrai que. On s'apercevait qu'il y avait des scénarios, en tout cas depuis 20 ans à peu près, puisque Chucky, ça commence à remonter, qui avait tendance à utiliser toujours les mêmes fonctionnements, les mêmes truchements, et même Annabelle, qui dans ses derniers films, ses dernières outrances numériques, va de plus en plus loin dans la surenchère, notamment avec le Annabelle 3, qui est absolument dingue. Je ne sais pas comment une poupée peut faire autant de bazar, même si elle est hantée. Moi, je veux bien être ouvert aux forces de l'esprit et du surnaturel, mais une seule poupée ne peut pas rayer un quartier entier d'une ville. Enfin, concrètement, ça reste une poupée. Et c'est vrai que c'est cette démesure absolue depuis le premier qui n'était pas si mal que ça, finalement, qui était plutôt intéressant. Mais cette orgie d'effets numériques, je pense qu'on est vraiment sorti totalement du sujet parce que l'imaginaire vient se plaquer directement sur vous, alors que les premiers films des années 80, et c'est pas seulement une idée de progrès technique, mais les premiers films des années 80 vous laissaient cette latitude de développer votre propre imaginaire et de, évidemment, convoquer tous les souvenirs d'enfance qui pouvaient être les vôtres. Donc c'était vraiment cet aspect-là qui était important avec ces jouets au cinéma et ces jouets de cinéma, donc on a vraiment survolé ces grandes franchises.
Je m'accroche au passé, vole le temps, au présent, retenu par nos souvenirs, tous nos rêves d'enfant, j'ai peur d'oublier, j'ai peur d'avancer. Sans toi, le goût n'est plus le même, y'a comme un genre de hic, un refus, une aigreur qui défie la logique, la complicité. Volatiliser. Que sera demain sans toi, cela semble dénué de sens. Chacun vers nos chemins, l'un sans l'autre s'est perdu d'avance. J'ai tant donné, oui tant donné, même pardonné toutes tes erreurs. Même si je reste forte devant toi, je me sens rongée de l'intérieur.
Girls have changed.
Ivani nous accompagne pour nos pauses musicales au mois de février. C'était In Vain Master. Tout de suite, on retrouve l'équipe réunie autour de nos tables virtuelles pour parler du film du mois. Francis Weber réalise en 1976 Le Jouet. Comment passer à côté de ce chef-d'œuvre relativement méconnu que vous pouvez voir également sur Netflix pour retrouver ce charme assez suranné mais terriblement audacieux et moderne pour l'époque. On en parle tout de suite dans la deuxième partie d'émission avec toute la troupe.
Le Zorro ?
Non.
Le cosmonaute ?
Non, ça.
Le monsieur ?
Oui.
Non, on ne peut pas te le donner, mon chéri.
Pourquoi ?
Ah, eh bien, parce que c'est un monsieur. On ne peut pas te donner un monsieur.
Pourquoi ?
Allez, viens, on va te choisir un beau jouet, le plus beau du magasin.
Hein? Je veux ça.
Oui, mais ne t'énerve pas, mon chéri. Tout va s'arranger. Ne t'énerve pas. Ne t'énerve pas, surtout.
Le film du mois, c'est la partie qu'on s'est engagé à faire tous les mois. Donc, dans tous les mois, bon, on a notre thème que vous connaissiez, donc le jouet au cinéma. Et on décline, évidemment, dans une partie, tout ou partie d'une émission, tous les mois, un film qui, pour nous, représente parfaitement ce thème et l'illustre de manière emblématique. Et souvent, évidemment, on fait en sorte de choisir des films qu'on a envie de vous faire découvrir. Et là, on a un film de 76 de Francis Weber, qui est Le Jouet. Alors, il a eu une exposition incroyable, ce film, parce qu'il était très connu dans filmographie de Pierre Richard et de Francis Weber, et il est arrivé sur Netflix juste avant les fêtes l'an dernier, et très rapidement il a évidemment retrouvé des visions. Il y a beaucoup de personnes qui ont pu le revoir. Moi, je l'avais jamais vu, j'étais tombé dessus évidemment avec un pur hasard. Et Le Jouet en 76, là on peut dire qu'on est dans un film qui va très très loin dans la mise en scène du jouet, et puis également qui va avoir ce discours qu'on recherchait dans les différents sons que vous avez entendus jusqu'à maintenant, ce discours critique sur une société de consommation, sur l'éducation, sur le rapport à l'humain. C'est un film d'une profondeur assez folle en 76 de Weber. Et moi, j'étais même frustré quand j'ai vu ce film-là. Évidemment, Francis Weber, c'est dans la culture pop française un pilier incontournable, et on est très content de voir tous ces autres films, et on les a découverts tous avec passion. Mais quand j'ai vu Le Jouet sur Netflix, et je me dis, mais comment ce film ne peut pas être aussi rediffusé que les autres? Comment on a pu passer à côté depuis aussi longtemps? Alors, on fait le pitch rapidement, hein. François Perrin, donc l'avatar de Pierre Richard chez Francis Weber, est journaliste au chômage. Il trouve un boulot dans un journal parisien, donc France Hebdo, qui est totalement fictif, qui est dirigé par le redoutable multimilliardaire, Pierre Rambal-Cochet, incarné par Michel Bouquet. Donc là, on a déjà ce duo de grandes vedettes des années 70 au cinéma, dans le cinéma français. Donc il est fondateur et PDG d'un groupe industriel portant son nom. Alors évidemment, nous, on va tout de suite penser à des mecs comme Lagardère, et évidemment, c'est exactement ça. Rapidement, le jeune journaliste découvre le climat très 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 anxieux dans l'entreprise, et puis surtout il découvre l'enfant de ce grand patron, qui est absolument capricieux parce que, faute d'attention parentale et de véritable éducation, on lui met absolument aucune limite. Alors, je passe évidemment sur beaucoup de rebondissements, mais aucune limite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment donné, pendant une visite de magasin, le gamin, il découvre François Perrin, qui est en train de faire un reportage et qui est très maladroit parce que c'est Pierre Richard et que c'est du burlesque, et le gamin, il dit: je veux ce jouet, celui-ci. Et évidemment, ce caprice ultime de transformer un humain en jouet va être accordé. L'autre, qui est au chômage, au début, il va être dans cette logique-là, mais très rapidement, on va voir que Pierre Richard, dans un de ses meilleurs rôles, hein, vraiment, moi, il n'a que des meilleurs rôles, Pierre Richard, c'est une idole absolue pour moi, mais on s'aperçoit que le jouet du titre n'est pas forcément François Perrin, mais plutôt le gamin dans l'histoire. C'est un film absolument merveilleux, et Nicolas, je vais te lancer dessus, parce que moi, j'avais prévu de faire un synopsis assez court, mais c'est un film vraiment dont on va parler avec passion, parce qu'on a vraiment très très envie de que vous le découvriez également.
Ouais, c'est génial, ce film. Moi, je l'ai vu dans les années 80, et il y a plein de lectures de parce que quelque part le personnage de Pierre Richard, lui, se trouve un enfant, et l'enfant, lui, se trouve un père, en fait, un vrai, avec celui lequel il peut jouer. Ils peuvent faire les ouaves, en fait. Il y a une scène lors d'un cocktail, un repas en extérieur, où ils sont déguisés en cow-boy, en indien, et ils sont dans leur monde. Ils sont leur monde de gamins. Ils jouent. Ils ignorent complètement le monde des adultes, l'un comme l'autre, et en plus c'est très drôle, parce que ça met ça pousse le rôle de jusqu'à son extrême, en fait, parce qu'à un moment donné, ils sont repris par le père qui dit, attendez, c'est sérieux, là, on n'est pas là pour jouer. Et en gros, vous voyez pour ça, je fais votre job là, je fais mon rôle de père, je joue avec mon fils quelque part. Et ça, c'est essentiel. D'ailleurs, la scène, le final, en fait, parce que le film se veut une comédie, mais il y a une scène, un final assez dramatique, en fait, où quelque part l'enfant choisit de rester quelque part avec François Perrin plutôt que de repartir avec son père à la fin. Et c'est assez déchirant quand on y pense, finalement. Et le personnage cynique interprété par Michel Bouquet se rend compte qu'en fait, certes, il est très riche, il terrorise tout le monde avec le pouvoir de l'argent. Il y a cette scène assez sordide où il rentre chez des gens et il dit « J'achète une maison tout de suite, cash, et vous fichez le camp maintenant, je vous l'achète, une fortune. »
Madame, monsieur, bonjour. Je suis Pierre Rambal-Cochet. Je vous prie de m'excuser pour cette intrusion. J'ai une question à vous poser.
Monsieur?
Alors continuez, je vous en prie. Combien vaut cette maison?
Non, elle n'est pas à vendre, monsieur.
Je ne vous demande pas si elle est à vendre. Je vous demande combien vous l'évaluez.
Je ne sais pas, je l'ai payée 60 millions il y a 5 ans. Elle devrait valoir maintenant 80 ou 90.
Je vous en donne 200.
C'est une plaisanterie.
Non.
C'est même un très bon prix.
3.
Comment?
3 millions si vous partez tout de suite.
Je comprends pas.
Vous faites vos valises, vous partez à l'instant.
On se rend compte du pouvoir de l'argent. Il arrive à faire peur à son personnel. Il y a une scène, il paraît tirer une histoire vraie d'ailleurs. Il y a une scène où le personnage de Gérard Jugnot, je crois, est licencié parce qu'il a la main moite quand il lui serre la main.
Oui.
Il y a le personnage de Jacques François aussi, un acteur formidable qui est sur le point de se mettre à poil parce que son patron lui dit, mais il lui dit, mais attendez, à un moment donné, vous allez jusqu'où comme ça, quoi. Et donc cet homme prend conscience du pouvoir qu'il a, de la peur qui l'inspire, parce que je veux dire, à côté d'Arc Vador, c'est un clown, quoi. Là, on se rend compte vraiment de la frousse que génère cet homme.
Et puis, il faut rendre justice à Michel Bouquet de jouer cet enfoiré avec autant de justesse, parce qu'il faut beaucoup de courage aussi pour faire ça. Et puis, j'étais marqué dans ce que tu disais, dans Pierre Richard, qui arrive à avoir une dignité et une fierté à faire l'enfant, parce que quand il fait l'enfant avec un enfant qui n'est pas le sien, qui est dans une fontaine en train de faire le con dans plein de monde, et ben c'est lui qui est le plus digne de tous, en fait, dans cette fameuse scène que tu décrivais.
C'est naturel.
Et il est vraiment vraiment, j'étais estomaqué de voir ce film là. J'étais même étonné, vu le discours en filigrane qu'on perçoit, que Netflix le programme. Je me dis, ils ont dû passer à côté du discours qu'on perçoit, parce qu'il y a un discours qui est d'une profondeur dingue aujourd'hui sur la société telle qu'on la connaît et sur les rapports évidemment de ces grands patrons, évidemment, qui est fait de clichés et de malentendus, mais il y a quand même un fond de vérité qui est assez pertinent et très 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 puissant dans ce film-là.
Après, on pourrait en parler des heures, hein, mais c'est se répéter. Il y a aussi le pouvoir de la presse qui est abordé également, jusqu'où on peut aller critiquer son propre patron. Enfin, il y a plein de choses. Le personnage de François Perrin, qui au départ, il passe par plusieurs stades, hein, il n'y croit pas, c'est une blague. Après, il fait un total mépris, et puis finalement, il se rend compte que il est payé
cher.
C'est pas évident, parce que, il est payé cher. Et puis finalement, il se rend compte que ce qu'il fait, quelque part, c'est du bien, quoi. Il apporte à cet enfant une affection que l'enfant n'a pas. Pourtant, il croule sous des jouets. Enfin, moi, quand je l'ai vu avec un regard d'enfant, que je vois faire rouler sa petite voiture électrique dans les couloirs, mais c'est un rêve de gosse.
Il a une salle de jeu à côté, Ricky ou la belle vie, c'est un rigolo. Hein,
c'est ça.
Gymnase. Voilà, donc il y a tout ça, mais ce qui lui manque, l'essentiel, c'est un père. Mais rien que la scène, quand il est dans la Samaritaine, la scène où il dit « je veux ça », c'est d'un cynisme monstrueux, parce qu'il n'y a personne à côté qui rigole, il n'y a personne qui lui dit maintenant, c'est bon, on arrête les conneries, tiens, tu vas prendre ce déguisement et on rentre. Il n'y a personne qui n'ose le contredire. Ils vont même jusqu'à voir discrètement, bon écoutez, voilà, ça va s'arranger, c'est juste pour maintenant, vous faites semblant que, etc. Et on enchaîne, on remet une couche, non, je veux qu'il soit emballé. Je veux même pas qu'il m'accompagne, qu'il monte derrière dans la voiture. Non, il est dans une caisse, il est transporté. C'est fou, parce que personne n'ose dire, attendez, il va lui mettre une paire de claques et puis on en parle plus, quoi. Parce que ça démange tout le monde. Mais personne n'ose, quoi.
Mais c'est vrai que c'est le grand cinéma populaire des années 70 français. Alors, je veux pas faire le vieux con, le nostalgique, mais il y avait un savoir-faire à cette époque-là. Je vais le faire quand même. Il y avait un savoir-faire à cette époque-là, chez Gérard Rouri et chez Francis Weber, de passer de sujets très graves, très sérieux et de scènes très gênantes et d'arriver quand même à en rigoler. Mais avec cette profondeur, sans jamais perdre le sens de la profondeur. C'est-à-dire que il y a le nouveau jouet hein, de James Hutt en 2022, le remake. Les critiques sont pas terribles. On va pas vous raconter d'histoire et on va pas non plus vous raconter d'histoire. On l'a pas vu, donc on va pas forcément le critiquer, dire que c'est pas bien. Mais je pense que revoir ce film qui va avoir 50 ans dans pas longtemps est devenu vraiment très important hein, et vraiment 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 avec un sens qui même met en perspective toute l'œuvre de Francis Weber pour moi.
Effectivement, mais en plus, on parlait de Michel Bouquet, mais Michel Bouquet, il a, ouais, c'est toujours un acteur dans tous ses films, il m'a toujours fait flipper. Voilà. C'est-à-dire, mais c'est, je sais pas pourquoi, il y a une sorte de capacité à, quand on regarde deux hommes dans la ville, oui. Le flic complètement, enfin, terrible, quoi, torsionnaire, voilà. Et on n'imagine pas un gars comme ça, parce que il a cette vision d'être le
bourgeois des 70, de la
nouvelle société. Le bourgeois des 70,
le bourgeois pompidolien qu'on a vu chez Chabrol.
C'est ça, guindé, voilà, ouais. Tu te dis, mais non, c'est pas possible. Et il a cette froideur. Je sais pas si on le voit vraiment sourire dans des films. C'est presque, le choix, là, il est, y a un vrai, sans que c'est réfléchi. Voilà, le film de Weber, je crois que c'est partie de ses premiers films en plus. Si c'est pas le tout premier, on nous corrigera évidemment, mais si c'est pas le tout premier, voilà, il assoit sa façon de faire. On sait que ça va être un grand auteur, un grand cinéaste, quoi.
Dans le remake, c'est Daniel Auteuil hein, qui reprend le rôle de Michel Bouquet, oui. C'est Jamel Debbouze qui reprend le rôle de Pierre Richard. Alors
voilà, mais Daniel Auteuil, je j'aime beaucoup, mais il a pas, enfin pour moi, il a pas cette capacité à incarner un être monolithique et froid, quoi, terriblement en dehors de. Presque qui n'a pas d'émotion pour le coup. Il y a peut-être un côté presque psychopathe au personnage. Ouais. Quoi.
En 76, c'est très courageux parce que c'est un discours post-68ard qui est récupéré dans une grande comédie populaire et avec beaucoup de profondeur et vraiment avec un écrin qui fonctionne très bien. Mais là, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on n'est pas si éloigné que ça. Alors, les critiques sur Allociné du remake, hein, je précise, parce qu'on l'a pas vu, hein, mais c'est 3,5 pour la presse et 2,5 pour les spectateurs. Donc, il n'a pas vraiment rencontré son public, pour être franc, parce que sur Allociné, pour avoir moins de 3.
Et surtout pour les critiques spectateurs, généralement, les critiques spectateurs sont toujours plus élevées en termes de métacritique que les critiques presse.
Bah, la plupart des spectateurs regrettent le premier, de toute façon. Voilà.
Bah, c'est ça le problème, c'est que c'est souvent toujours des critiques comparatives. Mais bon, en même temps, c'est le lot d'un remake aussi, hein. C'est forcément d'être comparé à l'original.
Tout à fait.
Alors, il faut quand même avouer que Francis Weber, il a, c'est aussi une critique qui, de façon internationale, fonctionne. Alors, après, évidemment, le film, comme c'est un film français, c'est compliqué de le sortir dans d'autres langues parce que les Américains ou les Anglo-Saxons sont pas trop pour le doublage ni pour le sous-titrage. Donc, du coup, tant que c'est pas en anglais, on n'y va pas. Et c'est pour ça que, effectivement, il fait l'objet d'un remake, ce film américain.
Il y a eu un remake avant, hein. Il y a eu
un remake américain.
Américain, ouais.
Voilà, et il y en a beaucoup de films de Weber qui ont eu des remakes américains. C'est bien la preuve que c'est un film français, mais qui peut parler à toute la société, j'allais dire, occidentale, pour le coup.
Ouais, c'est vrai que c'est alors, c'est pas méconnu, les films de Francis Weber. Hein. Tous ces films ont été très bien exposés. Et heureusement qu'il y a eu ce vrai succès populaire et critique de ces films-là. Et heureusement, je dirais aussi que 40 ans, 45 ans après, quand on revient sur ces films-là, on constate on n'a pas ce regard, vous voyez, un peu passé, où des fois, des films sont datés, ils ont un discours qui fonctionne plus. Là, c'est merveilleux de voir que ce film, évidemment, dans le fond, n'a pas pris une ride. Et il y a vraiment, vraiment, à tous les niveaux, dans tout ce qui l'utilise comme élément scénaristique et d'une justesse folle, vraiment, pour le coup.
Oui, c'est un film vraiment très intéressant. Je voulais dire, par rapport à ce qu'avait dit Nicolas, je suis totalement d'accord avec lui. Et en plus de l'aspect filiation jouée avec son fils, qui n'est pas son fils, mais en plus de l'aspect affectueux, il y a aussi placer les bonnes limites à son enfant, parce que il en a des limites, le gamin, mais qui ne sont pas des limites qu'ils font avancer, en fait. Et c'est vrai qu'on lui apprend, du coup, les limites qui sont intéressantes. Enfin, voilà, donc, c'est de l'affection, mais c'est vraiment le rôle du père, comme tu disais tout à l'heure. Et effectivement, je trouve que la scène donc où il demande à son employé de se mettre nu pour voir ce qu'il va le faire, et que l'autre le fait, et qu'il arrête quand même avant, on se dit, tiens, il arrête, ça y est, il a compris. Et en fait, on se dit, là, ça va peut-être être le tournant du film, il va retourner vers son fils et changer, enfin, ça va le faire évoluer, et en fait, pas du tout. Et il fuit, et il veut emmener son fils loin pour justement que... qui reste dans cette norme, donc ça c'est génial.
Ce qui est très touchant dans l'interprétation de Michel Bouquet, c'est que on se demande si lui n'est pas comme son fils aussi, c'est-à-dire qu'il a toujours cherché des limites et que personne lui en pose non plus.
C'est ça clairement.
Voilà.
Voilà.
Et c'est quelque chose qui m'est vraiment que je trouve très émouvant dans le film aussi, parce qu'on dit voilà, c'est un méchant, il s'occupe pas de son fils, mais il y a également ce côté grand enfant qui est très présent, et on oublie en fait dans ce film là ce qui est génial, le côté enfant que jouait Pierre Richard, et ben c'est lui l'adulte en fait, c'est là où il est peut-être le plus adulte au sens où on l'entend, au sens cliché du terme, et tous les autres deviennent des gamins autour de lui, et c'est, il est vraiment ce côté où il va les élever au sens le plus noble du terme, quoi. Et c'est pour moi, c'est vraiment, j'ai aimé tous les films de Francis Weber que j'ai vu, mais alors celui-ci, c'est vraiment un film absolument exceptionnel, hein. Clairement, moi je pèse pas mes mots parce que là on est vraiment dans un film qui mériterait beaucoup plus de vision et de succès plus populaire, il en a eu, mais pour les nouvelles générations qui l'ont pas croisé en salle, c'est vraiment quelque chose qui doit être vu et qui en tout cas apporte énormément de discussions comme vous l'entendez maintenant. On peut faire évidemment des parallèles et des passerelles avec d'autres films jeux qui sont très importants également pour nous, qui sont très importants également pour nous, parce que des jeux, des jouets adaptés au cinéma, il y a eu des films aussi importants en plus du jouet et du nouveau jouet, donc sur remake, alors qu'on n'a pas vu, hein, donc si vous êtes curieux, et moi d'ailleurs je vais le voir aussi pour voir le remake, parce que je suis assez curieux de voir ce qui en a été fait, mais on ne veut pas forcément parler, et on en reparlera dans d'autres émissions, c'est pour ça que là vraiment on va les citer pour rester dans la thématique du film du mois. Évidemment, la suite d'A Couteau Tiré sur Netflix, Glass Onion, donc une franchise de 3 films pour laquelle Netflix a casqué très 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 cher. On parle de 450 millions de dollars. Hein. Enfin, c'est quand même assez hallucinant pour les 3. Hein. Allez pas me faire dire ce que j'ai pas dit. Mais enfin, je veux dire, c'est quand même dingue pour un Cluedo, puisque là on est dans le domaine du Cluedo à la Agatha Christie, d'en arriver finalement à avoir un tel budget pour une franchise comme Netflix. Moi je vous propose un très court extrait pour illustrer cette ouverture vers d'autres films, qui est un extrait d'un film très 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 célèbre et absolument génial de Mankiewicz, qui est dans cet esprit du Cluedo à couteau tiré, qui est un film qui s'appelle Le Limier, justement, avec l'inénarrable Laurence Olivier et évidemment Michael Caine.
How would you like your drink?
With ice?
With ice?
Yes, please. What does he do?
Alors, Le Limier, film de Joseph Mankiewicz, on est en 72. C'est un film qui, en britannique, qui reprend cette atmosphère britannique du Cluedo, qui lui-même devient un cliché à part entière, mais qui est absolument génial. On est dans le domaine d'un huis clos. Vous allez avoir ces deux comédiens, ces deux personnages. C'est un film culte absolument génial. Alors évidemment, c'est pas le jouet qu'on citait tout à l'heure, c'est un peu plus austère, c'est un film qui va peut-être être plus exigeant avec ses spectateurs, je vais pas m'en cacher, mais c'est absolument réjouissant. Vous avez Andrew Wyke, qui est auteur de romans policiers, qui invite dans sa demeure remplie d'automates mécaniques, donc on est encore dans ce domaine du jouet, le coiffeur Milo Tyndall, qu'il sait être l'amant de sa femme Marguerite, mais l'autre ne sait pas qu'il le sait. Bam ! Tout de suite, une situation qui est posée. Ce huis clos absolument génial va aller très loin, très très profond dans le duo entre ces deux comédiens de légende, Michael Caine et Laurence Olivier. À tel point qu'on avait un prof de cinéma à la fac qui disait que c'était le seul bon rôle de Michael Caine dans sa carrière, ce qui est vachement méchant.
C'est un peu dur, oui, quand même. Voilà.
Mais c'est vrai que Michael Caine, ici, il est à l'époque, c'est le jeune premier qui a fait Get Carter. Donc Get Carter adapté par Stallone, où il joue un tueur à gages. Il a ce côté un peu froid. Et ici, il va être confronté à la vieille garde britannique qui refuse les jeunes premiers qui viennent débarquer. Il y a vraiment un duel de génération et on est dans le Cluedo absolu. C'est pour ça que j'en parlais, parce qu'on voit qu'Andrew Wyke est auteur de romans policiers, exactement comme le personnage, le maniaque qui est assassiné dans Un couteau tiré. Donc évidemment, c'est une référence absolue pour À couteau tiré, et c'est aussi une manière d'adapter le Cluedo. D'ailleurs, Cluedo, c'est un film, hein, Nicolas, on va en parler, qui a également été adapté littéralement au cinéma, et cette ambiance de jouet et de jeu au cinéma, on la retrouve également dans ce film. Donc c'est en 85, hein, de mémoire, le film Cluedo.
Oui, c'est ça. Je l'ai vu il y a longtemps. Il a été diffusé sur Canal+, je crois. Dans mon souvenir, c'était assez humoristique. Il y avait beaucoup de second degré. Ça tournait un peu en dérision. Après, le thème du Cluedo en soi, c'est pas le jeu qui l'a inventé. Hein. C'est beaucoup de romans d'Agatha Christie qui sont ce qu'on appelle le Woodenet, qui l'a fait grosso modo. Et c'est simple. On a un huis clos, on a un meurtre, on a des suspects et il faut savoir. Qui parmi les suspects est le coupable, avec quelle arme, dans quel lieu. Et c'est vrai que c'est une atmosphère qu'on trouve dans d'autres films. J'ai en souvenir notamment 8 femmes, où il y a un peu cet aspect-là aussi. Tous les téléfilms d'adaptation d'Agatha Christie, on prend un manoir sur la côte bretonne et on réunit tout le monde. Enfin voilà, c'est Mort sur le Nil, c'est un Cluedo aussi, le Crime de l'Orient Express aussi, quelque part. Quoi. Mais c'est vrai qu'À couteau tiré, c'est l'exemple le plus récent et à mon sens, un des plus réussis, même si l'histoire est autrement plus tordue et compliquée que ne l'est le jeu de société à la base. J'ai bien aimé la suite sur Glass Onion. Ouais. Je trouvais que c'était à la fois une suite différente, mais dans le même esprit. Et j'ai bien aimé. Puis on en sait un petit peu plus sur le personnage de Benoît Blanc, même si voilà, il est quand même assez en retrait. On sent que c'est pas lui, c'est le héros dans le sens où c'est lui qui démêle toutes les intrigues, mais il est suffisamment en retrait pour, parce qu'il y a tellement de personnages intéressants, il y a un super casting, il est suffisamment en retrait pour pas voler la vedette aussi à tout le monde, quoi. Donc je trouve que c'est plutôt assez réussi, ouais.
On a sa place à chaque fois dans le film, on s'intéresse vraiment à chacun des personnages à peu près à la même teneur, quoi.
Et c'est important parce que c'est vrai que Cluedo, c'est un autre fantasme de cinéma, hein, quand on était dans la thématique du jouet où alors évidemment c'est un jeu de plateau, mais les personnages deviennent des jouets de l'intrigue à part entière, et c'est vrai que c'était une thématique qu'on voulait aborder, sur laquelle on reviendra, mais on voulait au moins en ouverture de cette émission avec le film du mois, en parler, l'évoquer, parce que c'est quelque chose qui est un exercice scénaristique, et on est dans le jouet de cinéma technique sur lequel on reviendra dans notre troisième émission de la semaine prochaine, les jouets techniques du cinéma, les caméras, mais également les techniques de narration qui font partie de tout l'éventail de ceux qui écrivent et qui filment le cinéma. Thomas, sur l'aspect Cluedo, pour terminer sur cet aspect-là, est-ce que, clairement, les huis clos en général participent de cette expérience-là, parce qu'on peut citer un huis clos très célèbre du cinéma français que je recommande également très, très vivement, qui est Marie-Octobre. Marie-Octobre, c'est un Cluedo. Vous avez une ancienne cellule de la Résistance qui se retrouve après la guerre, et vous avez... une taupe qui a fait exécuter par les Allemands pendant l'occupation, et ils se retrouvent tous là et ils veulent la retrouver directement, et ils ont de la soirée pour le faire. Voilà, donc là on est dans le huis clos français, un des plus célèbres, et je voulais également citer dans cette partie là parce que où les personnages sont hyper stéréotypés, ils deviennent des jouets à part entière, et pour le vraiment plus grand plaisir clairement du spectateur dans ces ambiances là
Ben oui, l'idée même de ce genre de film, c'est que le spectateur est impliqué, quoi. C'est l'idée que chacun peut se dire « Ah, je pense que c'est lui, je crois que c'est lui, moi je suis plus proche de ce personnage-là, donc finalement j'ai presque pas envie que ce soit lui le tueur. » Donc du coup, chacun a son petit chouchou et fait son pronostic. Et du coup, c'est ce qui est alors, ce qu'on avait dit un peu dans les films à spoiler, parce qu'on en avait parlé d'À couteau tiré justement à ce moment-là.
On l'avait spoilé.
Ouais, on l'avait spoilé d'ailleurs, exprès. C'est l'idée de dire que ce genre de film, il peut fonctionner. Alors, il y a deux écoles. Soit il fonctionne une fois, au moment où on le voit. Et là, on se dit, ouais, super, j'ai envie. Et... ceux qui marcheront bien sont ceux qu'on aura envie de voir une deuxième fois. Et en se disant, en se laissant un peu embarquer, même si on sait qui a fait le coup, ça me coûte de le dire, mais c'est un film de Ryan Reynolds que j'aime bien. Ryan Johnson que j'aime bien.
C'est absolument, c'est absolument.
Le film de Ryan Johnson que j'aime bien, et c'est triste parce que
tout le monde réagit là-dessus. Ouais. Tout le monde a envie de réagir.
Il a quand même fait les derniers Jedi, quoi. Voilà, quoi, c'est tout.
Non, mais moi je dirais qu'on va évidemment laisser la parole à Juliette et Nicolas là-dessus, mais moi je dirais que c'est absolument rouversant ce que tu nous racontes, Juliette.
non, moi je voulais sortir juste du sujet. C'était quand même un sujet très à la mode, hein, les Houdounites et tout ça. Il y a une série, moi je l'ai pas vue, mais ça m'attire beaucoup. C'est The White Lotus, qui est un peu sur le même principe. Une saison, c'est voilà, on doit résoudre un meurtre. Et puis comme ça, on peut rendre hommage à Jennifer Coolidge, en plus, qui vient d'être récompensée au Golden Globe. C'est quand même une super acte.
Et alors moi, ce que je voulais rajouter sur le couteau tiré, parce qu'il y a quand même un truc assez incroyable avec ce film, c'est que je crois que c'est à peu près au bout de 20 minutes, une demi-heure, on sait ce qui s'est passé. C'est révélé.
Oui. Au Colombo.
Voilà, on refait un coucou à Mathieu.
Pour autant, le film garde son intérêt. Pour autant, le film garde son intérêt, c'est ça, et c'est assez différent des Houdounites classiques d'Agatha Christie où on est dans la tête de Poirot ou Marple, on essaie de comprendre et on est complètement largué parce que c'est tellement tarabiscoté que de toute façon on n'aurait jamais réussi à y arriver. Donc là, on nous dit clairement, bah non. Alors au début, on laisse un peu de mystère, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, on n'aurait jamais pu deviner ce qui s'est passé. On nous explique ce qui s'est passé, et pour autant, le film derrière, on reste accroché parce qu'on a envie de savoir. Bah déjà, qu'est-ce qui va en découler? Est-ce que ça va être découvert? Qu'est-ce qui vont être les conséquences, etc.? Et c'est là où je trouve que c'est assez malin. Et on retrouve un peu ce même principe dans Glass Onion, même si ça arrive un peu plus tard dans le film. Je crois que ça doit être à la moitié ou aux deux tiers qu'on a cette révélation. Ouais. Ouais, voilà.
Très bien.
Et puis c'est des films familiaux en plus.
Oui.
Parce que, ça marche bien aussi à regarder avec les enfants. Ils aiment bien aussi cet aspect finalement enquête. Oh, dis donc, il y a du rebondissement. Enfin, voilà. Mm-hmm. Et du coup, c'est cool, quoi.
En tout cas, c'était très bien de finir sur ces films-là, cette ouverture vraiment vers un d'autres thèmes sur lesquels on reviendra, parce que on se rapproche du jeu, les personnages sont déjoués, mais on se rapproche du jeu au cinéma, un autre thème qu'on redécouvrait avec plaisir. Et on était très content, en tout cas, dans cette partie-là, d'évoquer donc le jouet, le film du mois qu'on voulait absolument mettre en avant et vous faire découvrir. Et c'était en tout cas un très grand plaisir d'en parler avec vous dans ces deux premières émissions consacrées au jouet au cinéma, dans ce mois consacré qui met en avant le jouet, les jouets de notre enfance. La semaine prochaine, c'est les jouets techniques du cinéma, comme je l'ai annoncé un petit peu tout à l'heure. On va aller voir des réalisateurs, des techniciens qui vont justement nous parler de leurs jouets, les caméras, les éclairages ou les jouets habituels avec lesquels ils aiment bien filmer, parce que ça fait aussi partie de cette notion de jouet qu'on voulait mettre en avant. Et évidemment, on en parlera aussi avec d'autres spécialistes, des spécialistes de jeux de plateau qui vont nous parler des adaptations de cinéma en jouets et également des jouets qui sont devenus des cinémas. On va continuer à parler de ces thématiques là avec des spécialistes. En tout cas, merci beaucoup les amis pour ces deux premières émissions. Merci Nicolas, merci Thomas et merci Juliette. Et on vous retrouve évidemment sur la page Facebook de l'émission Graffiti Cinéma. Vous retrouvez l'émission sur Anchor, Spotify, Apple Podcast et même sur Amazon Music. Et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires sur la page Facebook de l'émission, ou pourquoi pas nos propositions d'émission. Et également, vous pouvez adhérer à l'association Graffiti Cinéma et pour participer aux émissions et être devant les micros comme on le fait avec plaisir et passion. Un grand merci encore les amis, et puis à très bientôt.
À bientôt.
Bisous.
Et bientôt, bye.
Tchuss.
Pourquoi vous avez fait ces graffitis?
Non, pourquoi vous faites ça?
Hein?